Bâle, Copenhague, Kiruna, Stockholm.
Abham guzre, dunya guzri.
Hyderabad, Istanbul, Mumbai, Sofia, Téhéran, Budapest.
Et sans cesse, le voyage recommence pour partir vers de nouveaux horizons.
Vienne, Lausanne.
Fred.
Julie. Julie.
Fred.
Fred et Julie.
Un week-end en Eurasie.
Vous écoutez Radio Suisse Romande, la première, avec Fred et Julie. Et nous sommes toujours au Japon. On n'a pas encore appris le japonais, mais ça vient.
Konnichiwa. Nous sommes là dans un quartier tout à fait différent des précédents. Nous sommes à la cité.
Effectivement, la semaine dernière, on a visité les vieux quartiers de Tokyo traditionnels avec les petites lanternes en papier à Bunkyoku. Et puis avec Aya, on a vu le quartier beaucoup plus vivant de Shibuya, le quartier jeune, le quartier grunge. Et maintenant...
Eh bien maintenant, le quartier moderne, le quartier de la cité. Mais d'abord, on peut rappeler que c'est la dernière étape à Tokyo. Demain, nous partons pour Hyderabad. Et c'est l'Inde, Hyderabad. Et puis, le voyageur asiatique, c'est tout l'été. C'est tous les jours, tous les samedis et les dimanches, c'est-à-dire tous les jours du week-end, de 4h à 5h sur la première.
Le quartier de la cité, c'est un quartier complètement différent et en même temps qui ressemble beaucoup à l'image qu'on a du Japon. Les grandes tours, les voitures dans les avenues qui passent à toute allure, et puis les petits messieurs en costume et cravate et puis qui ont l'air plutôt tristes de partir au travail.
Autant vous dire que là au milieu, on se fait remarquer, on ne ressemble à rien du tout.
Mais on prend le chemin de ces grandes avenues pour s'arrêter en bas d'une énorme tour.
En fait, il y a deux tours, il y a la A et la B. On va prendre la A, on a rendez-vous au 20e étage. On vous a donné rendez-vous d'ailleurs dimanche soir dernier en vous disant aujourd'hui, c'est à 16h qu'on a rendez-vous en bas de cette tour. Car nous, on a également rendez-vous en haut de la tour. Nous allons monter au 20e étage. Et là, au 20e étage, on demande à une réceptionniste qui nous appelle notre interlocuteur spécial d'aujourd'hui. Et c'est un homme assez sec qui arrive. Ah, bonjour, bonjour, vous voilà. Alors, regardez, venez, venez. Et il nous emmène à l'autre bout de cette grande salle, une énorme salle, avec des énormes fenêtres, et nous fait visiter la ville depuis en haut.
Alors, c'est une toute autre vision de Tokyo, puisque cette fois-ci, on voit justement toute la cité des affaires. Et après, il y a l'énorme cité impériale, donc toute verte cette fois-ci. C'est un gros pâté de verdure au milieu de cette ville d'acier et de béton.
Alors nous, on pose nos affaires en pensant qu'on va s'arrêter là. Ils nous disent non, 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 venez. Et ils nous amènent à l'autre bout de cette grande tour pour voir cette fois-ci le côté est et plus le côté ouest de la ville.
Mais heureusement, la visite de la ville s'arrête là et il nous fait asseoir à une petite table dans une autre pièce, nous commande deux cafés.
Et nous sortons notre micro.
Je suis un correspondant étranger depuis 17 ans au Japon. Mon nom n'a pas d'importance, mon nom c'est George Baumgartner. Mais ce n'est pas mon nom qui m'intéressait, c'est mon métier, correspondant étranger. Et j'en suis très fier, mais c'est un métier en voie d'extinction. Donc les correspondants étrangers sont des gens qui sont en train de disparaître de la carte journalistique parce qu'il y a une obsession aujourd'hui, c'est un phénomène universel dans le monde, d'un repli sur soi, d'une localisation de l'information. Les gens en Suisse ou ailleurs ne s'intéressent qu'à eux-mêmes, ou plutôt les responsables des rédactions pensent que le seul moyen de susciter de la curiosité chez leurs lecteurs ou leurs auditeurs ou les téléspectateurs, c'est de les gaver d'informations locales. Mais je ne pense pas que les gens soient aussi bêtes que ça. Et ils ont aussi un besoin de savoir ce qui se passe à l'extérieur. Et surtout, s'ils veulent se comprendre eux-mêmes, parce qu'on ne peut pas se comprendre soi-même sans se confronter à l'autre, à quelqu'un de très différent. Et le Japon, c'est peut-être le meilleur endroit, l'un des meilleurs endroits du globe pour tester cette formidable confrontation avec l'autre qui est totalement différent de vous.
Fred et Julie sur la première avec George Baumgartner à Tokyo.
Correspondant étranger.
Je suis arrivé la première fois au Japon en tant qu'étudiant en 1975. Et pour moi, l'arrivée au Japon fut un choc aussi grand que mon passage en Inde. Je crois que, et peut-être plus encore que l'Inde, parce que c'est une masse continentale, l'Inde. Le Japon, parce que c'est une île, m'a donné le sentiment d'être une autre planète, de me retrouver sur une autre planète. Et c'est formidable, parce qu'il y a peu de gens au monde qui peuvent prétendre avoir pris pied sur une autre planète. Et le Japon, c'est ça. C'est à la fois quelque chose qui ressemble beaucoup à ce qu'on connaît chez nous en Europe. Vous avez les McDonald's, les grands magasins. Mais vous avez aussi une écriture, des idéogrammes affichés sur toutes les façades des immeubles ici et qui sont incompréhensibles. Et ça, c'est le premier obstacle auquel on est confronté, l'obstacle de la langue. Et une fois qu'on a le sentiment de l'avoir franchi, cet obstacle, après quelques années, il y en a d'autres qui se heurtent à vous de façon quotidienne. Et même après 17 ans de présence au Japon, passer une journée, se réveiller chaque jour ici à Tokyo le matin, on sait en se réveillant qu'on aura à vaincre quelque chose. Donc chaque jour, on obtient une petite victoire ou une petite défaite, parce que rien n'est simple ici, ne serait-ce que pour renouveler ses papiers d'immigration, ou obtenir un rendez-vous avec une personne, ou se rendre d'un endroit à un autre. Rien n'est simple, tout est compliqué. Et c'est ça l'intérêt de vivre ici au Japon, c'est que chaque jour, vous êtes confronté à des obstacles, petits ou grands, et au bout de la journée, vous comptez le nombre de vos petites victoires ou de vos défaites.
Et pourquoi, au départ, il y a eu Tokyo ?
Oh, c'est le hasard. Le hasard. J'ai toujours été attiré, je pense, par l'Asie. Dans les années 70, j'ai prouvé un grand intérêt pour la guerre du Vietnam, pour tout ce qui était asiatique. Si je me suis trouvé à Tokyo, c'est au gré d'un voyage. Et j'avais rencontré un ami japonais en Inde. Et il m'a dit, oh, si par hasard tu passes par Tokyo, viens chez moi. Et je me suis installé chez lui. Et ensuite, je suis reparti. Et je n'avais qu'une envie, c'était revenir. Et je suis revenu.
Et si arriver à Tokyo, c'était arriver sur une autre planète, 24 ans après, quelle est votre planète ? La Suisse ou le Japon ?
Le Japon, forcément. Parce que pour apprécier le Japon, pour se confronter à ce pays si compliqué, si différent, malgré toutes ses apparences, son vernis occidental, il faut s'investir émotionnellement, intellectuellement, physiquement aussi, parce que vivre à Tokyo, c'est très fatigant. Et les premières années sont les plus difficiles pour tout étranger qui vient ici à Tokyo. La première année est un énorme choc, le choc de la foule, le choc d'appartements très étroits, très minuscules, lilliputiens, le choc de gens qui ne pensent pas comme vous, qui ont leurs propres valeurs, qui ont développé une culture forte. La preuve, c'est qu'ils parlent encore très peu l'anglais. Mais aussi ce ravissement d'essayer de s'adapter à cette société et qui, tout en se dérobant à vous, si vous courez très vite derrière elle, jusqu'à perdre votre souffle, jusqu'à perdre peut-être votre esprit, jusqu'à devenir fou parfois, vous réserve toutefois des surprises inoubliables. Le Japon, c'est ma plus grande richesse. C'est grâce au Japon que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. quelqu'un de totalement différent de ce qu'il était lorsqu'il quitta la Suisse.
Et le Japon, depuis votre premier voyage où vous vous êtes venu à aujourd'hui, comment est-ce qu'il s'est transformé pour vous ?
Oui, c'est un, il y a une continuité historique. Il y a une histoire millénaire qui est illustrée par l'institution impériale, l'empereur Akihito, l'impératrice Michiko. Donc, on arrive ici, même si on y passe une bonne partie de sa vie, c'est qu'un instant minuscule dans la vie de cette civilisation japonaise qui a une très très longue histoire. Et s'il a changé, lorsque je suis arrivé en 1975 la première fois, c'était un Japon qui sortait de sa période de développement accéléré, qui n'était pas encore très riche, il n'y avait pas encore tous ces gratte-ciel ici à Tokyo. Le Japon est devenu un pays industrialisé et a célébré ce stade dans son développement en 1964, au moment des Jeux Olympiques de Tokyo. Et entre 1964 et 1975, ce fut encore cette ruée vers une industrialisation à outrance. Le ciel de Tokyo était encore très noir de pollution. Aujourd'hui, il est bleu, même s'il reste encore assez polluer le ciel, mais c'est assez invisible. Mais il y a tout de même des progrès qui ont été réalisés. Et au début des années 80, lorsque je suis revenu, il y a eu un effet de richesse considérable. Le Japon est devenu le pays le plus riche du monde. Et à l'époque, la presse occidentale, lorsqu'elle venait ici à Tokyo, éprouvait vis-à-vis de ce pays jaune un sentiment de fascination et de répulsion à la fois. Le Japon faisait peur, sa richesse faisait peur. À force de dire que le Japon avait la première puissance financière du globe, une industrie formidable. Le Japon assure à lui seul encore aujourd'hui 40% de toute la production industrielle du monde. Eh bien, on a fini par donner chez les gens en Europe un sentiment de peur. Et c'est sans doute une erreur. Parce qu'entre-temps, ces 10 dernières années, le Japon a été confronté à une énorme crise économique. À tel point que les Européens qui avaient peur du Japon il y a 10 ans, aujourd'hui pensent qu'il est fini. Ils ont tout à fait tort. Le Japon est un pays comme les autres, avec ses forces et ses faiblesses. Et aujourd'hui, peut-être, il s'illustre davantage avec ses faiblesses. Mais c'est un pays qui mérite d'être davantage connu et compris. Parce que je pense que les Japonais, eux, du fait de leur insularité, ont encore, même s'ils deviennent plus narcissiques qu'autrefois et se replient aussi sur eux-mêmes, ils sont forcés de rester à l'écoute du monde extérieur et d'avoir une curiosité pour la culture européenne et une connaissance qui n'existe pas en sens inverse.
Dans cette évolution, nous avons rencontré beaucoup de jeunes. Une personne nous a dit que ben voilà, c'est simplement un passage, les jeunes filles se prostituent ou font tous les excès pour rentrer dans le cadre familial à 25 ans et avoir des enfants. Et l'autre nous a dit que la crise est une très bonne chose parce que peut-être que les Japonais vont apprendre à parler d'eux, à s'ouvrir, que la crise est un excellent moyen pour une remise en question, pour une vraie révolution en fait. Sur lequel des deux versants êtes-vous ?
Vous savez, on ne peut connaître que sa génération. Donc je suis mal placé pour parler de la jeunesse japonaise d'aujourd'hui. Mais ce que l'on peut dire est que le Japon est une société encore très, très rigide et son système d'éducation ne permet pas le développement de l'individuation. Depuis leur plus tendre enfance, les petits Japonais apprennent à vivre en groupe, apprennent à accepter une société où tout est centré sur le groupe, où hors du groupe, il n'y a pas de survie pour l'individu. Et les Japonais qui ne supportent pas cette société, la plupart d'entre eux quittent le pays et vont vivre à New York ou à Paris ou à Londres, parce que ce sont les seuls endroits au monde où ils peuvent respirer et devenir eux-mêmes. Et je crois que les jeunes Japonais encore aujourd'hui, même si certains d'entre eux vous apparaissent comme délurés, même si par leur mode vestimentaire, ils vous donnent l'impression d'être des individus comme aussi affirmés qu'en Europe, dans la réalité, ce n'est pas le cas. Ils suivent des modes. Je crois qu'ils sont encore, la majorité d'entre eux, incapables d'être véritablement eux-mêmes parce que la société ne le leur permet pas. Il y a aussi beaucoup de Suisses qui voyagent à l'extérieur, de jeunes Suisses qui voyagent partout à travers le monde parce qu'eux aussi, comme les jeunes Japonais, ils étouffent dans leur propre société, qui est peut-être sans doute moins rigide que celle que l'on connaît ici. Mais tout de même, ils étouffent dans ce petit pays, donc ils veulent en sortir. Et les Suisses qui viennent ici, souvent comme moi, peut-être ils décident d'y rester quelques mois et on les retrouve quelques années plus tard, toujours à Tokyo. C'est le fait que le Japon soit une société si différente de la nôtre, le défi qu'il vous lance de façon quotidienne dans votre vie de tous les jours ici, c'est une chance unique pour progresser soi-même, pour s'ouvrir soi-même, pour connaître davantage de choses qu'on ne pourrait jamais peut-être appréhender si on passait sa vie entière dans le pays d'où l'on vient.
Fred et Julie, c'est sur la première et nous sommes à Tokyo avec George Baumgartner, correspondant étranger pour la radio.
Vous avez dit tout à l'heure que si vous deviez quitter le Japon, vous iriez plus volontiers au Danemark. Qu'est-ce qui vous manquerait au Danemark du Japon ?
Peut-être beaucoup moins de choses que si je rentrais en Suisse, parce que la Suisse, c'est, c'est mon propre pays, même si je m'y sens un peu étranger après une si longue absence. Mais même si la Suisse, j'essaye depuis 2 ans vainement d'y rentrer, que je m'aliène pas mal de monde en ce moment, parce qu'au dernier moment, j'ai une peur, une paranoïa à quitter le Japon. Mais si j'allais au Danemark pour finir ma vie, si j'allais au Danemark, le Japon me manquerait moins parce que j'aurais tout à apprendre du Danemark, tout à découvrir. Et ce que j'aime chez les Danois, c'est leur grande tolérance et leur ouverture d'esprit. Ce sont des gens qui savent vivre, qui sont relax. Et j'aime les pays nordiques. Donc je me baladerai à travers les pays du Nord. Et le Japon me manquerait moins.
À Tokyo, petite chose drôle et insolite que nous l'avons pêchée pour vous.
À Tokyo, il y a des distributeurs à chaque coin de rue. On peut acheter des boissons, mais aussi, chose bien intrigante, on peut acheter des canettes chaudes. C'est-à-dire, on peut boire du chocolat chaud et du café chaud dans des canettes. Et juste à côté des boissons se trouvent des sachets de riz à toute heure du jour et de la nuit.
Par contre, à 11h, le troisième automate, il s'arrête. Parce qu'à 11h, ben, on n'a plus le droit de vendre des cigarettes et le troisième automate, il sert à acheter des paquets de cigarettes. Donc, à 11h pile, l'automate s'éteint. Donc 11h-5, tous les jeunes japonais, avides de nicotine, courent vers les automates pour acheter leur dose avant que l'heure fatidique sonne.
À Tokyo, sur les quais de métro, il y a toujours des petits kiosques à journaux. Et dans ces kiosques à journaux, il y a des cravates qui sont vendues. Une cravate noire, une cravate blanche.
Les cravates noires, c'est pour aller aux enterrements. Les cravates blanches, c'est pour aller au mariage.
Et c'est pour tous ces businessmen qui n'ont pas le temps de retourner chez eux pour changer. Vite, ils peuvent acheter une cravate selon les circonstances.
Petite histoire de métro, suite.
Sur les quais de métro, il y a des espèces de majordomes habillés tout en vert et gantés de blanc. Ces hommes-là sont installés parfois sur des podiums ou une petite cabine sur le quai. Et en fait, on nous a expliqué qu'ils étaient chargés de pousser la foule avec leurs gants blancs quand celle-ci était aux heures de pointe débordantes. Mais sinon, c'est aussi ceux qui annoncent le départ et la fermeture des portes du métro. Donc, ils vérifient sur le quai, tout le monde est bien rentré. Et c'est eux qui allument à la main la sonnette. Et là, les portes se ferment et ils rentrent dans leur petite cabine en attendant le prochain.
Et puis, ils sont très beaux parce qu'ils agitent leurs mains et ils donnent le signal au chef du train et au chef de queue du train. Donc, dans chaque métro, il y a 2 hommes dans le train, un tout au début, un à la fin et un autre sur le quai. Ce qui fait que dans n'importe quelle station, à n'importe quelle heure, on se retrouve en paix. Et par rapport aux trains suisses qui suppriment les contrôleurs pour économiser, et on se retrouve avec des Securitas maintenant et puis des sbires mitraillettes pour vérifier la sécurité, et maintenant il y a des hommes très humains avec des gants blancs.
向こうではそれをインディアンサマーって呼ぶらしいよ。でもそれは私たちのものだった。あなたのドレス、アランドローみたいにかっこよかった。よく覚えてるよ。この日にあなたに言ったこと。1年前のことも、1世紀前のことも、ずっと昔のことも。いつも一緒にどこでも。 私たちはずっと愛し合ってる。いつもこの日の朝なの。秋の。
でも決して忘れはしない。あなたのことを考えてるの。どこ？何やってるの？私のことを覚えてる？私は決して波にたどり着くことのない月を見ていた。波が私に向かって帰ってくる。砂の上に横になって、あの時の波、太陽、幸せ、この海であったことを思い出すの。ずっと昔。 1世紀前、そして1年前。いつも一緒にどこでも。私たちはずっと愛し合ってる。いつも。
この日の朝なの。秋の色をした。
Tokyo, suite des petites choses drôles et insolites que nous avons pêchées pour vous.
À Tokyo encore.
Si on prend pas le métro, si on prend pas le bus, si on prend pas le taxi, c'est qu'on a une voiture. Mais à Tokyo, pour avoir une voiture, il faut payer très très cher la place de parc. Et à Tokyo, lorsqu'on a une place de parc, elle doit être tout près de la maison, sinon on n'y a pas le droit. Alors, quand on a une voiture, il intervient un fait courant, des gestes des automobilistes, c'est qu'il faut faire le plein d'essence. Et à Tokyo, on fait pas le plein d'essence comme tout le monde.
En effet, à Tokyo, les pompes à essence sont situées au plafond.
On vient avec la voiture, il n'y a aucune colonne d'essence comme d'habitude dans lequel on se parque, devant ou derrière, suivant le côté de où il y a le trou pour remplir. Mais il y a juste le pistolet qui est suspendu à une ficelle. Alors on tire la ficelle, on prend le pistolet à la main, on tire le tuyau, et puis il y a un gros panneau d'affichage au mur qui marque colonne 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 10, comme ça, l'une à côté de l'autre. Et voilà, on fait le plein, et quand on a fini, on retire la petite ficelle, puis vrrrr, le pistolet remonte en haut.
Donc du coup, au Japon, il n'y a pas vraiment besoin de place pour avoir une station essence.
Il faut un grand toit avec des petits pistolets qui pendent.
Quand on n'a pas de voiture, cette fois-ci, on a parfois un vélo, parce que c'est une ville très plate. Mais les vélos, curieusement, on se fait toujours engueuler en Suisse quand on fait du vélo sur les trottoirs. Eh bien, à Tokyo, c'est seulement autorisé de faire du vélo sur les trottoirs.
Donc interdit, sur les routes. C'est assez surprenant parce qu'on se balade comme ça, à la recherche d'un magasin ou d'une station, ou perdu, comme on a été un peu tous les jours, régulièrement. Et puis, c'est les hommes d'affaires, c'est des petites vieilles, mais principalement des hommes d'affaires qui sont là, en complet cravate, et ils ont un attaché-caisse coincé comme ça, sur le guidon ou sur le porte-bagages, très beau, très propre. Et ils écrasent tout le monde.
Ouais, ils font, c'est ça qu'il faut dire.
À Tokyo, si on n'est pas dans le métro, c'est qu'on est aux toilettes.
C'est un très gros sujet, les toilettes japonaises. Alors d'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des choses très drôles. Dès qu'on tire la chasse, automatiquement, une espèce de petit jet d'eau qui sort, un petit robinet minuscule, et en fait, qui a le système de la chasse d'eau qui est recyclé. On peut se laver les mains souvent, donc il y a un savon avec une serviette juste à côté. Donc c'est intégré au meuble, je dirais, toilette même.
Au lieu que l'eau tombe directement comme chez nous dans le réservoir, elle émerge avant de retomber par un trou à l'intérieur de la chasse. C'est très joli, hein. Mais on en met un peu partout parce que c'est quand même petit comme évier la grandeur d'une chasse de toilette. Dans les toilettes de Tokyo, les femmes n'ont qu'une hantise, qu'on entende le bruit de leur pipi. Alors, il s'est inventé plein d'instruments, parce que la ville de Tokyo, ou même le Japon, a vu que chaque année, c'était des millions et des millions de tonnes de litres d'eau qui partaient, comme ça, ben, à l'égout, parce que les femmes tenaient la chasse, pendant qu'elles faisaient pipi, comme ça les voisines, elles n'entendaient rien dans les toilettes publiques. Alors, ils ont installé un appareil qui s'appelle Otohime, qui veut dire
princesse de bruit.
Et en fait, ils reproduisent le son de la chasse, le son qui fait. Et donc, les femmes ont un petit bouton à côté de leur toilette et elles pressent dessus avant de faire pipi. Et comme ça, eh bien, on n'entend plus rien et c'est beau, c'est propre, tout est bien.
Quand on va chez des gens plus traditionnels et qu'on a donc enlevé nos chaussures pour marcher sur les tatamis, quand on arrive dans la pièce des toilettes, on se rend compte qu'il y a de nouveau des petites chaussures d'intérieur qui sont en fait destinées aux toilettes. Pour enlever, si on a ses propres chaussures d'intérieur, pour mettre celles où il y a écrit WC et puis aller faire pipi avec ces chaussures-là.
Mais attention ensuite de ne pas revenir dans le salon avec ses petites pantoufles aux pieds parce qu'on aura l'air un peu ridicule.
Moi, j'avais envie de parler d'une petite coutume que j'ai trouvée très jolie, qui est celle, en fait, qui consiste à offrir un cadeau à chaque fois qu'on part en voyage. Et on offre un cadeau à n'importe qui. On offre un cadeau aux gens à qui on doit quelque chose. Donc, par exemple, si on a un voisin qui nous a aidés à réparer notre évier parce qu'il était bouché, eh ben, on lui est redevable. Et dans ce cas, chaque fois qu'on va partir, soit faire un petit voyage en province ou à l'étranger, on va penser à cette personne, ramener une spécialité du pays. Ça s'appelle les omiyage.
Histoire de métro, suite et fin.
Pendant plusieurs jours, on a essayé de comprendre quelle était l'heure de pointe du soir. Parce que, bien sûr, tout le monde connaît ces images d'heure de pointe surbookées dans le métro japonais. Et nous, à 5h, à 6h, à 7h, on ne voyait personne dans ce grand métro. Et puis un soir, on a pris le métro autour de 10h. Et là, on a compris.
Donc nous, on était assis, et en face de nous, imaginez des centaines d'hommes habillés tous pareils, les salariés-mêmes. Un petit complet cravate noire, une petite chemise blanche dessous, un pantalon noir. Le costume du fonctionnaire.
Et tous ces hommes avaient l'air fatigués. Ils dormaient debout.
Car dans le métro, tout le monde dort. Mais alors en plus, à 10h et 10h30, ils avaient l'air tristes. On avait envie de les serrer dans les bras en leur disant « Mais c'est pas grave. Et puis il y a la crise. Peut-être. Et peut-être que vous avez perdu tout votre argent et que vous allez perdre votre place. Mais il faut trouver des autres raisons de vivre que de travailler. » Parce qu'on sait qu'ils ont commencé à 8h le même matin. On voit que c'est 10h30 du soir. Peut-être qu'ils sont allés boire un petit coup. Mais là même à 10h30, c'est encore un peu tôt. Ils n'avaient pas l'air d'être éméchés avec leurs petits apéros, avec leurs collègues de travail. Et ils avaient l'air tristes. Et les femmes, pareil, elles sont pas en costume. Mais pareil, hein, y en a aussi. Et puis, c'est pas des femmes d'affaires, parce que les quelques femmes d'affaires, elles doivent pas prendre le métro. Et puis, ça doit être des secrétaires. Et puis, ouais, puis quand on est secrétaire, et puis on veut faire un peu de zèle ou on veut montrer qu'on travaille, eh bien, on n'hésite pas à rester jusqu'à 10h du soir. Ça se fait.
La 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 la. Alors tout ça c'est de l'atmosphère, hein, c'est de l'ambiance, c'est des sons un peu partout, des sons de Tokyo. Vous êtes avec Fred et Julie sur la première. Alors pour vous dégoter toutes ces musiques un peu sirupeuses, un peu kitsch que vous pouvez entendre durant toute cette heure, c'est uniquement du japonais. Et alors sur place à Tokyo, on entrait dans les magasins et puis on essayait de trouver le vendeur le plus branché ou le vendeur en tout cas qui avait l'air le plus looké international en se disant bah lui il va parler anglais et on le dira jamais assez, les japonais ne parlent pas anglais définitivement. Peut-être un jour, mais jusqu'à aujourd'hui, non. Alors donc, on trouvait ces gens, puis on leur disait « Excusez-moi, do you speak English ?» avec notre superbe accent de cuisine. Et puis eux nous disaient « Rien du tout, pas possible. » Donc on arrivait parfois à s'entendre sur le mot « musique », mais après ça, pas plus d'aide. Donc c'est pas évident de trouver des choix et de trouver quelque chose d'un peu original. Enfin, tout ça pour dire, c'est que le Japon et l'Angleterre, c'est très très loin. Le français, on n'en parle même pas. Et puis, je sais pas, à nous d'apprendre le japonais, quoi.
Bah ouais, hein, c'est pas très difficile finalement, il y a quelques centaines de kanji, et puis bon, le reste quoi.
Facile, facile. Alors on peut parler peut-être un peu plus de la mentalité des japonais.
Alors moi ce que je veux dire avant tout, c'est que les japonais, eh ben, ils sont super gentils. C'est des gens comme ça, même quand ils parlent pas un mot d'anglais, eh ben, ils vont vous raconter tout plein de choses à la sortie du métro en ouvrant leur parapluie avec des grands sourires, puis ils voient très bien que vous pigez pas un mot, mais c'est pas grave, ils continuent, et puis ils vous disent au revoir, et puis ils repartent. Et moi je trouve que c'est, on le dira peut-être jamais assez non plus, c'est que les japonais c'est des gens très ouverts.
Oh pas tous, hein. Il y a des méchants, mais on les a pas vus.
Voilà.
Et puis, c'est drôle, il y a tout aussi un rapport à la politesse qu'on ne connaît pas, un mélange en fait de gêne et de timidité, ou alors d'honneur, de toujours laisser la place à l'autre. Donc, où on disait par exemple, je crois que c'est Bouvier qui raconte dans les chroniques japonaises, et puis on l'a aussi entendu sur place, que par exemple, quand on habite quelque part à Tokyo, pour qu'il y ait un contact avec les voisins, pour qu'il y ait tout d'un coup une découverte de l'autre, il faut que les voisins perçoivent chez vous vos faiblesses. Parce que sinon, ils ne viennent pas chez vous, ils ont l'impression que vous êtes supérieurs, donc ils ne vont pas oser en fait...
Il faut être humain. Il faut pas être un surhomme tout d'un coup qui arrive de l'étranger et puis qui impose. On dit d'ailleurs les gaijin pour dire les étrangers. Et c'est vraiment pour eux des gens à part. Donc il faut arriver à s'intégrer pour être accepté dans un quartier.
Et puis donc toutes ces règles de politesse, ça se voit aussi dans les attitudes.
Oui, et d'ailleurs, je me rappelle d'un moment où on a rencontré une voisine à Bumkyoku, dans le petit quartier traditionnel, où là, on est entré dans sa maison, donc on enlève ses chaussures, bien sûr, pour rentrer dans un intérieur japonais.
Toujours et
là,
enlever ses chaussures.
Toujours enlever ses chaussures, donc avoir des chaussettes, prévoir des belles chaussettes quand on va au Japon,
et
c'est
deux,
très important.
Deux de la même couleur, c'est aussi essentiel.
C'est mieux. Et des chaussures qu'on peut enlever facilement aussi, parce que rien de plus pénible d'enlever ses chaussures, les remettre, défaire les lacets, enfin bref. Donc, on est rentré chez cette dame. Et cette dame, elle avait un intérieur pas très beau, hein, avec de la moquette
c'était
et puis des néons.
C'était une prof de musique.
Voilà. Et par contre, elle avait une pièce où il y avait déjà 5 pianos. Donc elle était prof de musique. Bon.
Et Marseille, combien de kilomètres? 2 pianos.
Oh, c'est pas grave. Hein.
Deux énormes pianos à queue. Ouais. Et puis elle nous a reçus dans un tout petit coin de cette pièce. Donc il y a son salon, une cheminée de salon, deux énormes. Qu'est-ce qu'il y a comme lumière, t'as dit?
Des néons.
Des gros néons pas beaux.
Ouais.
Et puis nous on était sur une petite chaise, il y avait une chaise pour les deux, dans un petit coin du salon.
Et puis donc avec la personne qui nous a amenés chez elle, ils ont commencé à parler. Et puis...
Ça.
Voilà, en fait la langue japonaise, très expressif. C'est-à-dire, on accompagne toujours, comme est en train de faire Frédéric, n'importe quelle personne qui parle. Bon. Et donc, les visages, tout d'un coup, s'éclairent, s'illuminent, se ferment, s'assombrissent, et ils sont complètement... Mais qu'est-ce qui va se passer? Et donc, voilà. Ah ouais. Donc, c'est très bizarre de parler avec des Japonais, parce qu'ils se penchent aussi.
Ça, vous le voyez pas, mais je me penche là, ça fait plus près du micro, plus loin.
Voilà, ou même quand ils téléphonent aussi, ils continuent à faire des courbettes comme s'ils étaient devant la personne.
Ah non, le métro, c'est très drôle, je peux raconter juste ça. Quand on marche, il y a les foules, comme ça, tout le monde il sort du métro, c'est les heures de pointe. Et d'un coup, il y a un embouteillage, c'est parce qu'il y a trois japonaises en train de téléphoner avec des portables, des natels minuscules, et elles sont pliées en deux pour pas déranger les autres. Il y a le derrière qui dépasse. C'est pas très haut. Et puis, elles ont la tête au niveau des genoux pour pouvoir téléphoner discrètement, comme ça. On voit même pas le Natel tellement il est petit. Et puis, c'est comme ça que se passent les communications mobiles à Tokyo.
Mais tous les Japonais ne sont pas comme ça. Et nous allons bientôt rencontrer Sharon, qui est une moitié japonaise, moitié canadienne, mais qui vit au Japon et qui a une autre vision, elle aussi.
Mais d'abord, on va vous passer un peu de soupe japonaise.
On est le 23 mars et on est dans un restaurant qui est un restaurant de soba, qui sont des pâtes à base de sarrasin et qu'on peut manger froide ou qu'on peut manger chaude. Et ici, c'est un endroit très spécial parce que d'abord, le décor est très joli et ils font leurs pâtes eux-mêmes à la main. Cet endroit est aussi spécial parce qu'il est ouvert jusqu'à 4h du matin, ce qui est assez rare à Tokyo. Et on se trouve dans un quartier très animé à Shinjuku, dans le Nichome, dans le quartier numéro 2 de Shinjuku.
Je m'appelle Sharon Hayashi et je suis traductrice. Je travaille pour des festivals de films et je fais des études du cinéma. Et oui, j'ai 29 ans cette année. Je suis en train d'écrire une thèse sur le critique du film des années 30 au Japon. Et surtout un panorama de la société des années 30. Les Japonais n'aiment pas vraiment le cinéma japonais contemporain. Ils aiment plutôt le cinéma français ou le cinéma européen. Et je crois que les Européens aiment bien le cinéma japonais parce qu'ils découvrent un aspect ou un côté zen ou quelque chose qu'ils pensent, les Japonaises. Les Japonais ont un complexe d'infériorité vis-à-vis les Européens ou les Américains, surtout dans le cinéma.
Donc, d'après toi, cette mouvance ou ce renouveau du cinéma japonais, il est uniquement parce que les Européens découvrent le cinéma contemporain, ou est-ce que le cinéma japonais a réellement changé ces dernières années ?
Je crois que depuis le succès de Kurosawa, les Européens cherchent ce qu'ils pensent est japonais. Mais en fait, Kurosawa, il n'était pas très respecté au Japon. Mais quand il a été découvert par les Européens, les Japonais ont commencé à voir des films de Kurosawa. Et je crois que c'est la même chose avec Beat Takashi.
Est-ce que tu as envie d'un certain cinéma japonais ? Est-ce que tu l'attends, ce cinéma ?
J'aimerais bien voir une cinéma japonaise plus dynamique. En fait, au Japon, il n'y a pas beaucoup de ressources pour des efforts culturels. La plupart des aides culturelles viennent des grands magasins. Et comme la bulle économique a éclaté, il n'y a plus d'aides culturelles.
Et maintenant que la bulle économique a éclaté, est-ce qu'il va y avoir un renouveau du cinéma, c'est-à-dire un cinéma qui parle des réalités sociales, qui parle des problèmes de génération, qui parle des problèmes hommes-femmes ?
En fait, grâce peut-être à l'éclat de la bulle, la faillite de quelques grands studios, la plupart des cinémas japonais en ce moment sont des productions indépendantes. Et je crois que c'est l'indépendance qui va faire rajeunir le cinéma japonais, parce que les gens peuvent faire ce qu'ils veulent maintenant et ne sont plus obligés à faire des films que les studios et que les spectateurs veulent. C'est toujours une question d'argent et je crois que comme il n'y a pas beaucoup d'argent en ce moment pour faire des films, les films sont très intéressants mais très limités. Je crois que les studios vont disparaître et les compagnies, les sociétés indépendantes vont remplacer les studios.
Tu dis que le cinéma contemporain ne t'intéresse pas. De quoi devrait parler le cinéma pour qu'il te plaise ?
Je crois que beaucoup des films en ce moment dépendent sur des effets spéciaux et je ne les trouve pas très passionnés et émouvants. Et, sauf quelques documentaires. C'est peut-être un stéréotype, mais je crois que le fait que la bulle économique a éclaté va faire un cinéma plus intéressant. Je crois que la crise économique et la crise émotionnelle vont faire un cinéma et une création artistique plus intéressant.
Et est-ce que tu penses qu'à travers ce cinéma ou à travers cette crise, simplement les Japonais vont apprendre à se dévoiler, à parler de l'intérieur d'eux-mêmes ?
En général, je trouve que les images et la production des images au Japon maintenant sont très superficielles. Par exemple, il y a ce qu'on appelle purikara. Ce sont des petites photos collants très populaires entre les écoliers. Au Japon, tout le monde peut produire des images. Et je crois que peut-être le cinéma meurt en ce moment. Et ça prend une autre forme. Et c'est peut-être le purikara et les autres choses qu'il faut chercher, qui sont plus intéressants que le cinéma japonais contemporain.
Moi, j'ai pas très bien compris ce que c'était que le purikara.
C'est des petites photos passeport. Hein. On va comme dans un photomaton.
Oui.
On se fait une photo de soi et puis ça donne des petits autocollants,
c'est
comme
ça.
Des stickers qu'on peut mettre partout avec sa figure et puis des dessins autour ou des fleurs.
Voilà,
ou des...
En fait, si tu regardes tes photos, c'est difficile de voir ce qui est dans la photo. C'est cette image floue et ambiguë qui représente très bien la société contemporaine, je crois, au Japon.
Fred et Julie sur la première à Tokyo avec Sharon.
Konnichiwa de Tokyo.
Qu'est-ce qu'on fait entre 15 et 20 ans et qu'on est un garçon?
On lit des mangas et beaucoup de garçons de 15 ans à 20 ans sont des otaku, ce qu'on appelle des otaku, des gens qui restent à la maison, qui jouent des jeux d'ordinateur. Tu sais, au Japon, ce sont les filles qui dirigent les modes.
Donc l'avenir du Japon, c'est la femme?
Oui, bien sûr.
C'est l'avenir du monde, la femme, de toute façon. C'est-à-dire qu'en fait, ces jeunes hommes, ils passent de chez eux devant leur ordinateur et deviennent des salariés directement après?
La plupart, oui. Je crois que la crise maintenant va libérer les gens et leur laisser à faire ce qu'ils veulent.
Pour toi, tu crois vraiment à la crise pour changer la société?
Oui, il n'y a que ça. Mais il y a moins d'argent qui circule en ce moment. Et dans l'avenir proche, je crois que ça va faire un choc chez des gens. Et ils vont apprendre qu'il y a des autres choses que l'argent.
En revenant au cinéma, tu disais que tu travaillais parfois dans des festivals de cinéma. J'imagine que tu dois voir quand même des choses nouvelles. D'abord, dans quelle voie ça va et donc qui sont ces personnes qui font ces films expérimentaux?
Je crois que le procès est toujours plus intéressant que le film. Et ce qu'il faut faire au Japon maintenant, c'est plutôt de créer des espaces où des gens peuvent continuer à créer. En fait, il y a beaucoup d'essais maintenant, des essais artistiques à Tokyo, surtout à Tokyo. Et c'est plutôt une barrière de langage qui empêche l'information sur le Japon de circuler. Si tu décides à habiter au Japon et tu apprends le japonais, tu peux faciliter cette
circulation.
Je vous rappelle qu'il est strictement interdit de fumer dans les toilettes.
Sur la première, à l'instant, c'était Sharon. Sharon, c'est une de nos rencontres les plus exceptionnelles qu'on ait fait à Tokyo, je trouve. C'est une personne qui nous a été présentée par Fabienne et avec laquelle je pense qu'on va rester amis. On va retourner à Tokyo pour se revoir. Ou en tout cas, il va continuer à se passer des échanges comme ça. Et puis, je trouve que c'est très révélateur des différentes rencontres qu'on a faites. Dès qu'on est présenté par quelqu'un d'autre, dès qu'on arrive à établir une autre sorte de contact, de relation, eh bien cette gêne, cette timidité, toutes ces questions qu'on se posait tout à l'heure, eh bien elles n'existent plus. Parce que tout d'un coup, ben, il y a une sincérité, ou en tout cas, ça s'est passé comme ça. Et puis tout à l'heure, ben, on critiquait, ou on se moquait. C'est vrai qu'on se moque très très vite du Japon, parce qu'il y a des autres attitudes, parce qu'il y a des autres tics, il y a des autres façons d'être. Et puis, ben, il est très facile de s'en moquer, il est très facile de relever tout ce qui a de bizarre. Mais plus que tout ça, moi je trouve que c'est surtout fascinant, parce que ben, cette incompréhension pour ses gestes, cette incompréhension pour ses coutumes, c'est ça qui fait vraiment, pour moi, le mystère du Japon.
お邪魔もでき
Sur Radio Suisse Romande, la première se termine cette étape japonaise. On quitte l'archipel pour s'élancer par-dessus les mers et atterrir sur les terres indiennes. Hyderabad, prochaine étape, dès demain de 16h à 17h.
Et le voyage continuera jusqu'à la fin de l'été, tous les week-ends, tous les samedis, tous les dimanches, 16h-17h, avec de la musique, chaque fois de la musique d'autres pays. Aujourd'hui la musique, choisie en partie par Carmen Algarada, c'était UFO, c'était Yotokomo Sakamoto, Sibo Mato, Globulo, des Lausannois qui chantent en japonais, on aura tout vu, et puis Akiko Yano, Buffalo Doubter et Fishman.
Sur le sol lausannois, cette émission a été réalisée par Frédéric Chauffat et Julie Gilbert, et à la technique Patrick Deram, et sur le sol japonais au loin, on remercie Sharon Hayashi et Georges Baumgartner. Radio Suisse Romande, la première, Fred et Julie, un détour du côté de la route.
Radio Suisse Romande, la première, au Okurimas, Goji des.
Radio Suisse Romande, la première, il est 17h.
Laval, Copenhague, Kiruna, Stockholm. Hyderabad, Istanbul, Mumbai, Sofia, Téhéran, Budapest.
Et sans cesse, le voyage recommence pour partir vers de nouveaux horizons.
Vienne, Lausanne.
Fred.
Julie. Julie.
Fred.
Fred et Julie.
Un week-end, en Eurasie. Aéroport d'Hyderabad, nous sommes dans un grand hall. Ici, tout d'un coup, tout est calme, c'est le milieu de la nuit. Il est 1h du matin, heure locale, il est 4h du matin pour nous. Les gens font des queues, il y a un employé en grande chemise qui pousse les gens à se serrer très fort l'un derrière l'autre pour faire des plus petites queues. L'ambiance est un peu particulière dans cet aéroport.
En fait, ça semble très vieillot. C'est un immense hall, c'est du carrelage par terre, ou plutôt du lino marron. Il y a des lignes rouges, et puis il y a des ventilateurs partout de couleur verte. Il y a eu beaucoup de militaires, en fait, sur le chemin qui conduit de l'avion jusqu'à ce check-in.
Vous écoutez la première et nous sommes, vous l'aurez reconnu, à Hyderabad. Plein de tampons sur le passeport, on vient de faire les longues files d'attente devant les douaniers. Et Hyderabad, c'est le centre de l'Inde. C'est un nouveau pays qui s'ouvre à nous. Le pays des chocs des cultures, le pays des couleurs, le pays des odeurs. Hyderabad, c'est au niveau de Bombay. C'est la 5e ville de l'Inde et c'est une nouvelle ville pour nous.
Radio Suisse Romande, la première. Hier, nous étions encore au Japon. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle étape qui va s'ouvrir à nous, qui va se poursuivre. Et le voyage continue encore tout cet été, tous les week-ends de 16 à 17 heures.
Aujourd'hui, un thème un peu précis. Dans cette grande ville, pas beaucoup de touristes. Nous allons donc partir à la recherche des francophones, de manière à pouvoir les interviewer de façon plus aisée. Soit des Indiens parlant français, soit des Français ou des Suisses vivant en Inde. Et puis on va leur demander qu'est-ce qui leur plaît dans cette ville. On va essayer d'avoir une approche comme ça, un petit peu douce, un petit peu... On va essayer d'atterrir dans ce pays tellement différent, et puis essayer de voir qu'est-ce qui les surprend, et qu'est-ce qui les marque particulièrement avec leur regard extérieur sur l'Inde. Et puis on va parler surtout du cinéma aussi. Le cinéma, c'est un thème très dominant dans cette ville. Hyderabad, c'est la ville où se passe la plus grande production du cinéma indien.
Second right. Second right. Thank you.
Nous sommes perdus dans ce taxi, dans la ville d'Hyderabad, à 2h du matin, pour essayer de trouver l'adresse où nous devons aller. Il y a le bruit du moteur qui tourne, il y a notre jeune chauffeur qui a... peut-être 18 ans, peut-être 20 ans, chemise blanche, bien coiffée, petite barbichette, dans cette voiture anglaise des années 40, tout brinque-balle. Et autour de nous, cette route recouverte par des arbres, de larges trottoirs, des maisons de temps en temps éclairées, de temps en temps dans la nuit. Là, il y a trois personnes qui dorment par terre, un chien qui fouille dans les ordures. Et puis, il fait chaud, il y a plein d'odeurs, il y a la poussière.
Ok, sir, bye.
La voiture n'a aucun phare, nous roulons dans la mi-obscurité, quelques véhicules épars. Tout à l'heure sur la gauche, deux femmes balayées par terre, l'une après l'autre à 5 mètres d'intervalle avec un petit balai de riz. Là nous arrivons sur une petite place où il y a un attroupement, une dizaine de personnes sont sur un camion.
You can go, it's at the end of the street 25. And then tell
no, madam, your school name.
No, where we are going is 26th road.
This street, this is school name?
Yes, but it's more easy.
School name?
Next village coming.